Bonjour chers auditrices et auditeurs, nous revoici avec vous pour une nouvelle émission de Radioactive avec Vosges Alternative au Nucléaire et nous allons développer d'autres sujets. Tout d'abord je vous présente Fred et je te laisse Fred te présenter toi-même.
Bonjour, Fred qui n'est pas un membre actif ou pas encore de Vosges Alternative au Nucléaire mais qui est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le nucléaire. Très rapidement pour me présenter, je suis ingénieur de formation, passionné par l'énergie, surtout l'énergie renouvelable. Mais voilà, quand je suis né et que j'ai fait mes études, le nucléaire existait déjà et on nous prenait ça comme la panacée. L'époque de la France n'a pas de pétrole mais elle a des idées. C'était le plein programme de développement du nucléaire civil français, le nucléaire militaire ayant déjà été fait. Et j'ai vécu mes années d'études avec ça. Mes copains de promo sont allés soit bosser à la centrale de Gravelines, soit être embauchés par Framatome. Moi, le nucléaire, j'étais plongé dedans tout petit. Et aujourd'hui, je me pose plein de questions. Et c'est pour ça que je suis là.
Voilà, merci Fred. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui sera la suite de notre première émission qui a eu lieu le mois dernier, par rapport au jeûne qui a lieu à Épinal et qui relate l'histoire des premières bombes atomiques. Et donc, de ce fait, les premières bombes atomiques, c'est une chose, mais de quel point on partait au départ? Et là, on va parler de...
Du projet Manhattan, c'est ça, effectivement. J'ai été invité à ce tour de table parce que j'ai lu récemment roman graphique, on dit, ou une bande dessinée qui s'appelle La Bombe et qui est vraiment très très bien fait, très instructif par rapport à l'historique de ce projet.
Alors Fred, la première question qu'on va te poser, c'est qu'est-ce que le projet Manhattan? Parce que Manhattan, je connaissais ça comme un quartier, mais pas comme un projet.
Alors, il a un lien avec le quartier, puisque c'est aux États-Unis que ça se situe. C'est le nom de code du projet de développement de la première bombe atomique. Comme je le disais tout à l'heure, ce projet est très bien relaté dans un livre qui s'appelle La Bombe, un roman graphique.
Tu peux donner le titre, le nom de l'auteur de cette BD?
Voilà, alors comme toujours dans les bandes dessinées, il y a deux auteurs, hein, il y a le graphiste et puis les scénaristes. Donc là, il y a deux scénaristes qui sont Alcante et Bollé, leurs prénoms ne sont pas donnés, et le dessinateur est Rodier.
Aux éditions de Glénat.
Et ils ont fait le choix du noir et blanc, ce qui peut choquer certaines personnes, mais en fait c'est très très bien, parce qu'ils ont pu mettre l'accent sur l'épaisseur du livre et l'historicité du scénario, qui est très très bien fait.
Donc en fait, tu vas nous raconter l'histoire de la bombe atomique.
Voilà. Alors c'est une histoire que certains ont peut-être vue en 2023 à la sortie du film Oppenheimer. Personnellement, j'ai vu le film et on est un certain nombre ici à l'avoir vu. Mais la BD, je l'ai lue après et elle permet largement de compléter cette histoire. Alors c'est une histoire qui démarre par une course de vitesse entre les alliés. Donc les alliés de l'époque, c'est USA, Grande-Bretagne et France y compris, et l'Allemagne nazie, qui en fait était un peu détenteur du savoir, puisque les principaux physiciens qui travaillaient sur la bombe atomique ou sur la fission étaient allemands ou autrichiens.
Cependant, il y avait quand même, en tout cas en URSS, aussi de la recherche. Ils savaient aussi que la bombe pouvait exister.
Oui.
Est-ce que vous pouvez resituer les dates précises de cette course à l'arme nucléaire?
Alors, effectivement, les dates, on va les citer, mais sur la partie savoir et préalable, il était unanimement reconnu que les savants allemands étaient largement en avance tout ce qui était physique, quantique et nucléaire. Mais ça les a, entre guillemets, desservis, puisque une partie de ces savants étaient juifs et ont rapidement émigré aux États-Unis, le premier étant Einstein en 1933. Ceux qui ont suivi plus tard, c'était après lui, ont quasiment tous fait partie du projet Manhattan.
Donc ce projet Manhattan était purement et simplement américain.
Oui, oui, oui. Bon.
Mais ceux qui ont convaincu les Américains de lancer ça, c'était des Européens. D'accord. Donc Léo Szilard, le savant hongrois qui a donc fait ses classes à Göttingen et au Kaiser Wilhelm Institute à Berlin, il était allemand, enfin hongrois, mais de langue allemande, hein, parce que finalement l'Europe centrale était très germanophone, et il a fait ses études, une partie de ses études en Allemagne. Et ces gens-là, justement, étaient tellement conscients que l'Allemagne nazie était proche de pouvoir avoir la bombe avec tout le savoir qu'ils avaient, qu'ils ont marqué à la culotte les politiciens américains, une fois qu'ils avaient émigré, pour arriver à les faire changer d'avis. Enfin, les faire aller vers le développement.
Pour être clair, ça s'est passé en 1933, en gros.
33, c'est la date
de l'immigration d'Einstein.
Oui. Et ça a été le premier. Les autres ont suivi quand même assez, pas tous aussi vite que ça.
Donc c'était une guerre froide avant la guerre.
Non. Alors. En fait, c'est quand la guerre démarre officiellement, enfin en 39 ici, mais aux États-Unis, il y a une date très précise. C'est au mois de juillet 41, là où, de toute façon, les Américains étaient entrés en guerre à cause de Pearl Harbor.
J'ai les dates. J'ai fait, sur la base de ce qu'il y a dans le bouquin La Bombe, et sur la base d'autres infos que j'ai été chercher effectivement sur Wikipédia, parce que tout n'est pas dans le bouquin, j'ai voulu retracer un petit peu cet historique-là. Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been? My darling young one, I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Walked and I crawled on 6 crooked highways. Stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard. Alors ça a démarré en fait avec Otto Hahn, prix Nobel de chimie, en 1938, qui avec Lise Meitner, qui n'a pas été citée dans le Nobel, donc une femme autrichienne, lui est allemand, chimiste, ont découvert la fission. C'est-à-dire le fait qu'un atome se désintégrait en deux atomes avec émission de neutrons. Voilà. Ensuite, on passe en France, au Collège de France. Donc là, Joliot-Curie et deux autres scientifiques, Hans von Alban et Lev Kovarsky, Je pense qu'il y en a un Allemand sur les deux. Je rappelle que Joliot Curie est prix Nobel 1935, dépose en 1939, donc en mai 1939, avant la guerre, un brevet pour exploiter les productions d'énergie à des fins civiles et militaires par contrôle de la fission. D'accord ? Et ça, le contrôle de la fission, c'est très important, parce que la bataille de l'eau lourde, qu'on citera après et qui est citée dans le bouquin, c'était justement par rapport à ce contrôle des neutrons rapides lors d'une explosion nucléaire. Ensuite, en Allemagne, en septembre 1939, bon, forcément, je vous ai dit que les savants allemands étaient en avance, donc l'Allemagne nazie, à travers la Wehrmacht, met l'Institut Kaiser Wilhelm, donc grosse université allemande, sous contrôle de la Wehrmacht, septembre 1939, pour développer l'arme nucléaire.
D'accord ? Sachant que la guerre était déclarée en septembre 1939.
Oui.
4 septembre.
Oui, c'est ça. Mm. Les USA, en septembre 1939, à ce moment-là, nos amis hongrois, juifs hongrois de langue allemande ayant étudié en Allemagne sont déjà aux États-Unis et tout à fait conscients que les Allemands ont une avance, peuvent avoir une avance considérable sur le sujet. Et donc, ils commencent à manœuvrer les politiques pour arriver effectivement à ce que les USA, avec leur puissance financière qui était déjà connue, travaillent sur ce principe de bombe atomique. Voilà. Donc, Alexander Sachs, banquier, je pense que Goldman Sachs ne doit pas être très loin, conseiller de Roosevelt, l'informe de la nécessité de développer ce programme de recherche. Lui-même, Sachs, est en relation avec Léo Szilard, donc le savant hongrois émigré, qui le tanne, le marque à la culotte, pour qu'il fasse bouger Roosevelt. Roosevelt, il n'y comprend rien au départ, et puis l'Amérique est neutre, parce qu'on est en septembre 1939, donc il ne va absolument pas s'engager. Sauf que c'est la guerre en Europe, et là, ils savent bien qu'à un moment ou un autre, ils vont devoir au moins fournir économiquement, comme aujourd'hui ils le font pour l'Ukraine, des armes à l'Europe. Voilà. Donc ça va encore durer un moment avant que le projet Manhattan démarre, je vais vous dire quand. En Grande-Bretagne, en avril 40, derrière septembre 39, en octobre 39, a lieu aux États-Unis quand même, parce qu'il a donné son feu vert aux études, la première réunion de l'Uranium Advisory Committee, dirigée par un physicien américain, mais qui n'est pas prix Nobel, lui, qui s'appelle Lyman Briggs. Voilà. De l'autre côté de l'océan Atlantique, en Grande-Bretagne, en avril 40, première réunion du comité MOD, qui travaille avec des savants également allemands qui sont arrivés là sur la fission nucléaire. Et ce sont les premiers à vraiment mettre au point des calculs et un ensemble de rapports qui prouvent la faisabilité de la bombe. Et tous ces rapports-là seront transférés au projet Manhattan entre 39 et 40. Sachant que finalement, le projet Manhattan, ce sera un projet conjoint. Alors, il est international par les savants d'origine germanique là, dont on a parlé, mais aussi par les Anglais qui vont participer, à travers ce comité MOD qui a envoyé toutes ses études. En URSS, en juin 40, Molotov autorise la création d'une commission uranium. Là aussi, il y a des physiciens, bons physiciens soviétiques qui ont dit qu'il fallait s'y intéresser. Puis forcément, les oreilles, les soviétiques avaient quand même des oreilles aux États-Unis, on verra encore comment. Donc ils savaient qu'ils travaillaient dessus, que les Allemands, les Anglais et les Américains travaillaient dessus, donc il fallait qu'ils y aillent. Le Japon a commencé à s'y intéresser en avril 41, donc il n'avait pas encore attaqué Pearl Harbor, c'était décembre 41. Et donc l'armée confie à l'Institut Riken le développement d'une bombe atomique. Parce que finalement, la faisabilité avait été prouvée, en tout cas sur le papier. Le 16 décembre 41, soit une dizaine de jours après l'attaque de Pearl Harbor, un rapport signé de 4 prix Nobel, Fermi, prix Nobel 1938, Compton, prix Nobel 1922, Lawrence, prix Nobel 1939, Urey, prix Nobel 1934, est transmis à la présidence des États-Unis et approuvé par le vice-président des USA, Henry Wallace, et qui finalement convaincra définitivement Franklin Delano Roosevelt en janvier 42 de lancer le projet. Avant, c'était qu'un groupe de réflexion.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en fait, cette arme terrifiante, finalement, elle est créée à l'origine sous la pression de scientifiques d'origine allemande qui, en fait, voient le régime nazi prendre de la puissance. Du coup, c'est comme la bombe nucléaire serait quand même à la source de la bombe nucléaire, il y aurait une espèce de positionnement anti-nazi, quoi.
Ah ben, c'était, bien sûr, ils ne voulaient pas que l'Allemagne nazie gagne la guerre. Et forcément le premier possesseur de cette arme d'un genre nouveau, était en position de force, hein, stratégiquement. Voilà, et le projet Manhattan prend vraiment son essor le 17 septembre 1942, quand le colonel Leslie Groves, qui sera nommé général à cette occasion-là, qui dirigeait la construction du Pentagone, qui était en pleine construction à ce moment-là, donc là, il prend la direction des opérations pour le projet Manhattan, donc développement de la bombe atomique, avec Robert Oppenheimer comme directeur scientifique, sachant que Robert Oppenheimer, dans sa jeunesse, étudiant, avait été faire des stages en Allemagne pour développer la physique quantique, hein, puisque les Allemands étaient toujours en pointe.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire, pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois des guerres tribales, comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans, couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assure, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez, cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous?
Je vous ai donné les principaux noms donc des protagonistes du projet. Je peux reciter Enrico Fermi, voilà, qui a vraiment été un acteur très très important, parce que c'est un physicien et un manipulateur de génie pour les expériences. On appelle ça un manipulateur en physique, et il arrivait très bien à le faire. Un dernier nom que je voudrais citer comme savant qui n'apparaît pas dans la bombe, c'est John von Neumann, puisqu'il a activement participé au projet Manhattan. Il est, comme Léo Szilard, un émigré hongrois, qui a fait ses études en Allemagne. Comme je disais à Jean-Luc en aparté, il est considéré comme l'équivalent d'Einstein en termes d'intelligence, mais il n'a pas forcément son aura. Pourtant, il est très connu. Moi, j'ai connu, étant jeune, en lisant des encyclopédies, puisque c'est lui qui a développé tout ce qui était calcul scientifique sur des grosses machines. Une des suites du projet Manhattan, ça sera la possibilité, effectivement, de développer des calculs de grands ensembles sur des machines. Alors, la première s'appelait ENIAC. Elle n'a pas été utilisée dans le projet Manhattan, mais elle est venue tout de suite après. Vraiment, c'est une des émanations du projet. Voilà pour la partie vraiment scientifique, et c'est intéressant de voir que ça conditionnait beaucoup de choses derrière.
Et qui seront par ailleurs utilisés, tu disais, dans ces calculs dans la dissuasion nucléaire, c'est ça ?
C'est ça. Et jusqu'en 96, parce que même en France, nos essais nucléaires ont fini en 96, et les derniers essais nucléaires étaient faits pour caler des modèles de calcul. Les calculs nucléaires français ont continué encore bien des années après, sur la base des derniers essais qui ont été faits en 96 en France. Bon, parce qu'il faut toujours de l'expérience pour caler les calculs. Alors maintenant, concernant vraiment l'aspect militaire du projet et son aboutissement, les dates clés sont 16 juillet 45, hein, où là, il y a eu encore une course contre la montre pour que test dans le désert du Nevada ait lieu en même temps que le vice-président, qui était devenu président puisque Roosevelt était mort. Truman s'est rendu à la conférence de Potsdam, qui est quasiment la conférence d'après-guerre, hein, puisque c'était fini en Europe, mais pas dans le Pacifique, pour voir un peu comment allaient se partager les équilibres de force, hein, notamment en Europe. Et c'est ce qui a fait toute la présence des Anglais, des Russes et des Américains, et des Français aussi sur le continent.
Potsdam, donc, une réunion avec Staline.
Avec Staline, tout à fait, les Russes étaient là. Voilà. Et à cette conférence-là, Truman a pu annoncer à Staline que l'essai avait réussi. Donc ça, c'était la première bombe, Trinity, c'était son nom de code. Alors, elle n'a pas été larguée d'un avion, elle était attachée à une tour à 30 ou 40 mètres de
40
hauteur.
40 mètres de haut.
Hein, c'est ça. Et voilà, l'essai a été parfaitement concluant. C'était le premier champignon atomique auquel les gens, en tout cas ceux qui étaient là, forcément c'est très secret, ont pu assister. Voilà. Ensuite, les deux autres dates, elles sont connues. 6 août 45, bombardement sur Hiroshima par la bombe A à l'uranium enrichi, d'une puissance explosive de 16 kilotonnes et qui a explosé à 600 mètres d'altitude, avec un système à canon, c'est-à-dire une charge projetée contre une autre à l'intérieur de la bombe. Et la deuxième, c'est Nagasaki. Alors, il faut savoir qu'il y avait une liste de cibles qui avait été établie par les scientifiques et les militaires, surtout, et que Kyoto était une de ces cibles. Hein. Donc Kyoto, c'était la capitale historique du Japon, avant Kyoto, plein d'éléments historiques. Et elle a été épargnée, hein, sur demande d'un des politiques américains. Donc heureusement, parce que ça aurait été dur sans doute de conclure une paix derrière. Et Nagasaki, le 9 août 1945, bombe au plutonium, 21 kilotonnes, donc elle est plus puissante que Hiroshima, mais étrangement, elle a fait moins de dégâts, parce qu'elle est tombée derrière, elle a explosé en hauteur, pareil, 500 mètres, mais les gens étaient protégés par une colline, parce qu'elle n'est pas tombée tout à fait à l'endroit où elle aurait dû tomber.
Et pour revenir au projet Manhattan en tant que tel, le projet Manhattan, on a pu dire beaucoup de choses, entre autres parce qu'il y avait une notion un peu secrète assez forte. Maintenant, récemment, il y a plusieurs publications qui sont sorties, la bombe, mais aussi tout le travail de Jean-Marc Royer sur le projet Manhattan. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Parce que, en fait, on parle d'une ville qui sort de nulle part et qui est faite de manière totalement secrète, quoi.
Alors, c'est vrai que dans le désert du Nevada, Los Alamos a été de toutes pièces une ville avec ses laboratoires, ses maisons d'habitation pour les savants, et puis tous les techniciens qui gravitaient autour. Alors, secrète, quand on voit qu'il y avait trois sites, hein, donc Los Alamos, c'est celui où travaillaient le plus de gens et les essais des bombes n'auraient pas eu lieu très loin, à une trentaine ou quarantaine de kilomètres. Mais il y avait Oak Ridge dans l'état du Tennessee, qui produisait l'uranium enrichi, et Hanford dans l'état de Washington, c'est-à-dire du côté de Seattle, là-bas, qui produisait le plutonium, donc les deux combustibles des bombes. Voilà. Et tout cumulé sur ces trois sites-là, il y avait 130 000 personnes qui ont travaillé au plus fort. Donc garder un secret dans ces conditions-là, de toute façon les Russes vous expliqueront qu'il n'a pas été gardé, puisqu'ils ont, je pourrais vous donner le nom de celui qui a transmis les secrets, il est dans le bouquin.
Tu connais à peu près le coût ? Tu te rappelles ?
Ça se compte en milliards de dollars de l'époque déjà.
Donc ça représente 2% du PIB américain en 1945.
Mais je n'ai pas de chiffre exact, je n'ai pas recherché ça, effectivement. Et donc je m'aperçois que je n'ai pas cité le nom des deux bombes, effectivement, qui ont détruit respectivement Hiroshima et Nagasaki. Donc Little Boy pour la première sur Hiroshima et Fat Man pour la deuxième, parce qu'elle était un peu plus grosse.
Mais elle fonctionnait avec deux matières différentes, deux combustibles différents, plutonium et uranium.
Et deux systèmes de mise à feu différents.
D'accord.
La bombe à plutonium était à implosion.
D'accord.
Et là, il a fallu des prouesses de physique et d'idées pour arriver à la mettre au point. Parce que, voilà, donc c'est... Et justement, dans le livre de John von Neumann, L'homme qui venait du futur, que j'ai lu avant la bombe, en fait, toute l'histoire de la bombe et du développement est là-dedans. Très technique, hein, donc beaucoup moins, je dirais, approchable que, enfin, par les gens que la bombe qu'il a est comme un film. C'est vraiment comme un film.
Je me permettrai de terminer avec un peu de, allez, on va dire, c'est pas de l'humour, mais enfin, certaines ironies. Ouais. C'est donc un grand projet scientifique, si on peut voir ça comme ça.
Ah oui.
Bon, qui tente à détruire tout, puisque Einstein a dit s'il y aura une troisième guerre mondiale, la quatrième sera avec des fléchettes.
Alors je connaissais pas cette citation d'Einstein.
C'est intéressant mais c'est sûr. Voir qu'une grande poussée scientifique pourrait être une destruction massive de la planète. Enfin,
c'est pas que scientifique, hein, c'est militaire.
Oui, mais enfin, voilà. Avant d'être militaire, elle est avant tout scientifique parce qu'il y a quand même un ego scientifique important là-dedans.
Et en fait, je parlais de John von Neumann, et tout de suite derrière, en 1946, a été fondée par l'US Air Force la RAND Corporation, qui a continué à travailler sur cette problématique de stratégie. Tu parlais de guerre froide tout à l'heure, Catherine. Il n'y a pas de guerre froide sans un équilibre froid, c'est-à-dire en disant « je te menace, tu me menaces, si tu me tues, je te tue ». Et c'est tout la problématique du nucléaire et du premier qui ne lancera pas la bombe, quoi.
Merci Fred de cette explication. Merci H, yes, qui est présent avec nous, et Jean-Luc de leur collaboration. Et nous invitons les chères auditrices et auditeurs à écouter la prochaine, qui sera, elle, sur un sujet très intéressant aussi et qui continuera dans cette même lancée. À bientôt, chères auditrices et auditeurs.